VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Il est 13h en temps universel. Bonsoir, bienvenue. Au nom de 17 organisations de défense des droits humains, Human Rights Watch exhorte le président américain Barack Obama à profiter de son prochain séjour au Kenya pour demander avec force au gouvernement kenyan d'améliorer le respect des droits humains dans le pays. Dans leur lettre au chef de l'exécutif américain en ce sens, les organisations en question accusent le président kenyan Uhuru Kenyatta de ne pas respecter la constitution nationale ni ses promesses d'obéir aux lois internationales sur les droits humains en usant comme prétexte la promotion de la sécurité nationale et la lutte contre le terrorisme. Alors qu'aux Nations Unies, le représentant spécial du secrétaire général pour la République démocratique du Congo, Martin Kobler, a salué mardi les avancées récentes en matière de lutte contre les groupes armés sur le terrain, une dizaine de civils ont été tués. Camille Grosdidier.
Radio Okapi signale qu'au moins 9 civils ont été tués par balle et à la machette mardi 14 juillet à Kakuka, un village situé à 90 km au nord-est de Beni dans la province du Nord Kivu. La radio cite à cet effet Teddy Kataliko, président de la société civile de ce territoire. L'armée congolaise serait à la poursuite des assaillants que la société civile croit être des rebelles ougandais des ADF. Les miliciens auraient également brûlé 69 maisons et l'on signale 2 disparus dans cette attaque. Le porte-parole adjoint des opérations militaires, le lieutenant Mike Hazuke, a évoqué une incursion des ADF qui aurait profité du redéploiement des nouvelles unités des forces armées de la RDC dans la zone pour commettre des crimes. La situation est revenue sous contrôle de l'armée, a-t-il dit, toujours cité par Radio Okapi.
Au Mali, plusieurs personnes soupçonnées d'être des djihadistes ont été arrêtées dans le sud du pays, près de la frontière avec la Côte d'Ivoire. Bagassi Koura.
Ils sont au moins 15 présumés djihadistes qui ont été arrêtés lundi soir à Zegua, dans la région de Sikasso, située à environ 460 km de Bamako. Zegua est la première ville malienne après la frontière ivoirienne. Les personnes arrêtées voyageaient dans un car justement en provenance de la Côte d'Ivoire. Et selon une source sécuritaire citée par l'AFP, ces suspects ont été transférés mardi à Bamako. Parmi eux figurent des Maliens, des Mauritaniens et certains étaient en possession de passeports français. À ce stade de l'enquête, il est clair que ce ne sont pas des voyageurs normaux qui ont été arrêtés, a affirmé à l'AFP une autre source de sécurité, précisant que 2 des passagers arrêtés ont reconnu être des membres de la Dawa, une secte islamiste.
Le Libéria a enregistré un nouveau décès dû à l'Ebola, ce qui a fait redouter une nouvelle flambée de la fièvre hémorragique dans ce pays déclaré libre de la maladie, vous le savez, le 9 mai dernier. Michel Joseph.
La dernière victime, une femme, est décédée peu après son admission dans un hôpital de Monrovia. Elle vivait près de la capitale libérienne et sa sœur faisait partie de 5 habitants du comté de Marghibi, chez qui la maladie a été détectée. C'est le deuxième décès des suites de l'Ebola au Libéria depuis que le virus a refait surface le mois dernier dans ce pays. Une situation qui fait craindre une propagation du virus dans le comté de Montserrado, qui inclut Monrovia. Un rapport envoyé à l'équipe de lutte contre l'Ebola et que cite l'agence Reuters souligne que la victime est morte peu après son arrivée à l'hôpital, ce qui signifie que le traçage des chaînes de contact des premiers cas n'a pas été rigoureux. 16 membres de la famille de la défunte ont été placés en quarantaine.
Les objectifs du millénaire pour le développement ont été atteints quant à la réduction des infections dues au VIH. C'est ce qui ressort d'un nouveau rapport des Nations Unies. Lionel Gaïma.
Selon les statistiques onusiennes, le taux de nouvelles infections est tombé de 35% et celui de morts dues au sida de 41%. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a lui-même annoncé la bonne nouvelle à la presse hier à Addis Abeba.
Today, 15 million people are on life-saving HIV treatment.
Aujourd'hui, 15 millions de personnes suivent un traitement sauvant leur vie. 15 millions, cela signifie que des milliards de familles sont protégées et des milliards de dollars économisés. Et cela signifie aussi que nous nous acheminerons vers une génération libérée sans sida. L'Afrique subsaharienne a toujours été la région la plus affectée par la pandémie, mais les progrès sont signalés sur le continent. La Namibie, le Sénégal et l'Éthiopie, qui ont réduit sensiblement leur taux de nouvelles infections, sont cités en exemple. Selon le rapport de l'ONU, l'accès au traitement a permis de sauver quelque 7,8 millions de vies à travers le monde. Ce traitement signifie également que 1,4 million d'enfants n'ont pas été infectés par leur mère. Par ailleurs, estime Michel Sidibé, directeur exécutif de l'ONU SIDA, dans 6 ou 8 mois, les personnes séropositives pourront cesser de prendre leurs pilules quotidiennes. Bientôt, nous aurons une injection tous les 4 ou 6 mois, ce qui va changer complètement la manière dont nous fournissons nos services aux pauvres. Ils n'auront pas à voyager, ils n'auront pas à venir, ils n'auront pas à stocker ces pilules et courir ainsi le risque de voir ces pilules perdre leur efficacité et créer une résistance aux médicaments. Les injections réduiront le coût de traitement pour les patients. Malgré tous ces développements prometteurs, il reste encore beaucoup à faire. En 2014, il y avait encore 2 millions de nouvelles infections et plus de 13 millions d'enfants ont perdu un parent ou tous les deux à cause du sida. Les objectifs du Millennium pour le développement doivent être remplacés cette année par les objectifs pour le développement durable, le nouvel objectif pour 2030 et l'éradication totale de la pandémie et l'accès au traitement pour tous.
Le tourisme va-t-il connaître, se remettre des suites des attentats de Sousse en Tunisie et à Bordeaux également? Difficile à dire si l'on tient compte de la récente décision de la Grande-Bretagne de déconseiller formellement à ses ressortissants de visiter la Tunisie. Une mesure ressentie comme un véritable camouflet par les autorités tunisiennes. Claire Morin-Gibou.
Pris 2 semaines après l'attentat de la station balnéaire de Sousse, durant laquelle 30 citoyens britanniques avaient été tués, l'avis négatif émis par Londres de déconseiller formellement la Tunisie comme destination touristique a été très mal vécu dans le pays. Les professionnels du tourisme tunisien jugent la mesure très inquiétante, la qualifiant de véritable perte de crédibilité pour leur secteur. Mais aujourd'hui, la Grande-Bretagne tente d'atténuer sa décision par la voix de son ambassadeur Hamish Cowell, qui s'est exprimé sur la radio privée Shems FM. « Nous voulons revenir sur ce conseil aux voyageurs aussitôt que possible », a-t-il affirmé, assurant que le Premier ministre britannique David Cameron s'était entretenu avec son homologue tunisien Habib Essid à ce sujet. Le Premier ministre tunisien a de son côté assuré que son pays avait fait tout son possible pour protéger les intérêts étrangers. Le soir même de l'attentat, la Tunisie avait annoncé le déploiement de plus d'un millier de policiers armés supplémentaires dans les zones touristiques. L'attentat du 26 juin est la pire attaque djihadiste de l'histoire de la Tunisie. Outre le choc qu'elle a suscité dans le pays et à l'étranger, c'est aussi un coup dur pour le tourisme, déjà affecté par l'instabilité qui a suivi la révolution de 2011.
VOA Afrique, en direct de Washington.
Les monarchies arabes du Golfe ont accueilli avec une prudence teintée de méfiance l'accord sur le nucléaire iranien conclu hier à Vienne. L'Arabie saoudite, chef de file de ces monarchies sunnites et rival traditionnel de l'Iran chiite, a réagi avec des mots bien pesés. Riyad s'est notamment félicité du fait que l'accord maintient pendant 5 ans l'embargo sur la vente d'armes à l'Iran, en justifiant cela par le soutien de l'Iran au terrorisme et ses violations des accords internationaux sur les armements. La crise de la dette en Grèce à Athènes, les parlementaires grecs doivent se prononcer aujourd'hui sur plusieurs projets de loi proposés par le Premier ministre Alexis Tsipras pour satisfaire les dures conditions posées par l'Union européenne en échange de leur aide financière pour renflouer l'économie du pays. Les créanciers réclament l'adoption de ces législations au plus tard ce mercredi. Les négociations pour l'octroi des fonds nécessaires à la Grèce commenceront après le vote. Au Yémen, les forces pro-gouvernementales ont repris l'initiative dans la guerre contre les rebelles chiites en progressant ce mercredi à Aden, la deuxième ville du pays qu'ils cherchent à reconquérir, alors que les États-Unis ont souligné l'urgence de mettre fin au conflit. Les combattants favorables au président en exil Abd Rabo Mansour Hadi, appuyés par les frappes d'une coalition arabe commandée par l'Arabie saoudite, ont lancé hier une offensive d'envergure à Aden, la première depuis l'entrée fin mars des rebelles houthis dans cette capitale du sud du pays. Le même jour, ils ont repris l'aéroport et continuent d'avancer dans d'autres secteurs de la ville d'Aden. Le Vatican et l'ONU ont invité des maires du monde entier au Saint-Siège pour les mobiliser dans la double lutte contre le réchauffement climatique et la traite des êtres humains, a annoncé aujourd'hui le Vatican. Jean-Roger Billon à ce microphone, merci de nous avoir choisis. Prochain rendez-vous de l'information dans 50 minutes.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.